A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hello les légendes, l'épisode du jour me tient sincèrement à cœur et il est hyper important puisqu'il permet à des gens atteints de maladies d'accéder à toute pratique sportive grâce à la formidable initiative de Guillaume Delamarre, notre invité qui est rescapé, on peut le dire, d'un cancer et a créé l'association Play Again qui organise une vente aux enchères ce jeudi 28 mars à 19h à l'hôtel Drouot à Paris. Il est également possible de la suivre en ligne. Tous les gains permettront de financer l'accès au sport à des personnes malades, comme je vous le disais, à la seule condition qu'un médecin ait certifié que cela favoriserait leur guérison. Ça a été le cas pour Guillaume et votre coup de pouce est d'une grande aide. Alors plus que jamais, diffusez cet épisode autour de vous. Toutes les infos sont en lien dans la description au passage. Il y a des lots incroyables à la clé. Raquettes de Novak, maillot de Rafa, veste de l'équipe de France, maillot de Kylian Mbappé, ballon dédicacé de l'équipe de France de rugby. Alors voilà, faites-vous plaisir et surtout, soutenez Play Again. Si vous écoutez cet épisode après la vente aux enchères, il est toujours possible de les aider. Donc, une fois de plus, le lien en description. Et envoyez cet épisode à vos proches. Faites-le rayonner. Merci. Hello à tous, je suis Max Zamora, créateur du podcast Tennis Légende. Et aujourd'hui, je reçois Guillaume Delamarre, qui a un parcours singulier. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et qui a créé une asso au profit de personnes eux-mêmes qui ont un parcours singulier. Guillaume, il faut que tu nous racontes tout ça. Déjà, comment ça va?
Bonjour à tous déjà. Ça va bien maintenant. J'ai eu quelques petits soucis, effectivement. Comme tu le disais, un parcours singulier.
Ouais. Ça a commencé en 2019. Et là, en fait, on enregistre un peu en last minute cet épisode puisque c'est ta date d'anniversaire de sortie de cancer. Mais du coup, reprends, si tu peux, nous raconter en 2019 comment ça s'est révélé, comment tu étais à l'époque. Tu es un gars qui joue bien au tennis. Tu étais 2-6 à 55 ans, très propre. Est-ce que tu peux nous refaire la chronologie de tous ces événements qui se sont déclenchés du coup en 2019?
Bah écoute, oui, volontiers. Donc en 2019, comme tu disais, j'étais 2-6, numéro 1 français en fait des plus de 55 ans et numéro 55 mondial sur le circuit professionnel vétéran, ouais. Sur lequel j'ai été m'amuser et tester le niveau des Français par rapport aux internationaux. Et j'ai eu un petit bouton en fait sur le cou qu'on a traité avec des antibiotiques. J'ai la chance d'avoir une femme de médecin donc qui m'a préconisé des antibiotiques et j'étais en tournoi avec un ami que pas mal connaissent, Jean-Baptiste Renaud.
C'est qui Jean-Baptiste? Moi je connais pas.
Jean-Baptiste, un joueur à zéro en 45 ans, champion de France en double. Okay. On est parti donc ensemble sur un ITF en Espagne.
Ouais.
Et puis au retour, bizarrement, le kyste n'avait pas bougé, donc on s'est un peu inquiété. On a fait rapidement un prélèvement, il s'est avéré que c'était un cancer de la base de la langue, un papillomavirus, cancer très agressif avec des probabilités très fortes, des probabilités négatives très fortes sur ce type de cancer. Mais au vu de mon état de forme, en fait, les médecins m'ont préconisé un traitement de cheval, ce qu'ils ont appelé chimiothérapie, radiothérapie immédiate et journalière, que j'ai eu pendant 6 mois, donc qui m'ont fait perdre 20 kilos. Mais pendant lesquels, en fait, j'ai jamais voulu arrêter de jouer au tennis, je sais pas pourquoi, en fait. Et je pense que ça a été très bénéfique parce que ça m'a permis d'encaisser la totalité des traitements, puisqu'on fond musculairement pendant cette chimiothérapie, et que le tennis m'a permis de garder un certain volume musculaire, ou en tout cas de fondre moins vite, et du coup d'encaisser tout ça. À l'issue de ce traitement, on est rentré dans une phase de reconstruction. Donc là, j'ai rejoint une académie de joueurs professionnels à Andrézy sur un programme de 18 heures par semaine de préparation physique 2 heures le matin de prépa en salle et 2 heures l'après-midi de jeu avec des jeunes entre 16 et 25 ans, 3-6 à moins 2. Et puis j'ai fait ça pendant 8 mois, ce qui m'a permis d'aujourd'hui de sortir, comme tu disais, de la rémission au bout de ces 5 ans, de rejouer un niveau relatif, on va dire français, autour de 5-6, 4-6. Donc pas trop mal pour mes 58 ans. Mais surtout d'être ce qu'on appelle cancer free cette semaine. Je retombe dans des statistiques classiques, on va dire.
D'accord. Alors attends, juste pour reprendre la chronologie, t'es 2-6 à 55 ans, donc t'es numéro 1 de ta catégorie, c'est ça? Et
C'est ça.
t'es à quel club et c'était quoi ta progression? Parce que t'es quand même
Alors,
solide comme bonhomme.
L'ITR m'a un peu aidé avec certaines assimilations sur des victoires, mais effectivement, je suis 2-6 en 55, donc on est 3 à l'époque 2-6 en France, donc je suis numéro 1 au classement français. Malheureusement, je ne peux pas défendre mes chances, puisque c'est la première année où je suis 2-6, j'ai le cancer. Les années suivantes, malgré le traitement, j'ai envie de jouer, mais il y a le Covid qui s'installe en France, donc on est spoilé ou on est interdit de championnat de France. Comment résumer ça? Dans ma carrière, si tu veux, de joueur, j'ai commencé à 6 ans de tennis. Donc, j'ai toujours été fan et joueur de tennis.
T'es où, t'habites où, t'es dans quel club?
Alors, je suis à Pontoise. Je joue actuellement pour le Tennis Club de Pontoise, c'est un club municipal. Mais à l'époque, j'étais à. Ça y est, le nom m'échappe.
C'est pas grave. Aujourd'hui, du coup?
Ouais, aujourd'hui je suis à Pontoise. Donc j'ai été en fait à 13 ans numéro 3 français en progression au classement. J'avais fait 32-15-3 à l'époque, ce
Ouais.
qui était un bon de classement important. Et après j'ai toujours joué en seconde série. J'ai toujours été en seconde série, on va dire entre 15 et 2-6 depuis mes 18 ans. Je crois que j'ai arrêté une fois 4 ans où j'étais tombé 15-5, mais la Fédé m'a réassimilé à 15. Donc
Et t'étais 2-6 à quel âge au plus tôt?
j'ai été 2-6 en fait pendant 4 ans, 3 ans ces dernières années. En fait, précédemment, mon meilleur classement c'était 4-6, où j'avais été 6 années, je crois, environ à 4-6.
Et tu dirais
Mais
que c'est du coup les assimilations chez les vétérans qui te faisaient passer de 6?
alors, c'est deux choses. Oui, alors il y a des assimilations parce que la Fédé, à un moment, a donné, quand on gagnait des tournois, des grosses victoires. Par exemple, sous chimiothérapie, j'ai quand même été champion de Jamaïque. J'étais parti me reposer là-bas et il y avait un tournoi ITF et on m'a proposé de prendre
Le
le
mec veut pas s'empêcher, quoi.
tournoi. Non, mais c'est ça. Alors, donc le gars me dit, ah, tiens, tu joues avec ta femme, tu joues pas mal, tu veux pas rentrer dans le tableau, on fait un ITF. Je dis, c'est quoi? Ok, machin. Bon, je fais le tournoi et il s'avère que je fais un match très très dur au premier set, un match de 3 heures. Et puis finalement, je gagne le tournoi, je deviens champion de Jamaïque et la France me met un bonus à moins 2. Parce que la Jamaïque, donc c'était en plus de 50 ans, je crois.
Ouais.
L'équivalent bonus de tournoi sur un championnat national, même sur invitation,
C'est
c'est moins
négat.
2. Ouais,
D'accord.
c'était survalorisé, bien entendu. Au moins de, je dirais, allez, le meilleur du tableau jouait, je pense, 3-6. Bon, j'ai eu la chance, moi, je pense que je jouais 4-6, 5-6 de gagner le championnat. Bon, ouais. C'est un bonus qui m'a aidé, qui m'a fait prendre un classement de plus. Après le Covid, tu connais l'histoire. La Fédé nous a bloqué les classements pendant le Covid.
Ouais.
Donc, voilà, j'en ai profité, hein. Je suis resté plusieurs années à 2-6, du coup, un peu grâce
Ok,
à ça.
ça m'intéresse de connaître le circuit vétéran, tout ça. Tu disais que tu étais 50e mondial vétéran, c'est ça, à l'époque?
55, en fait.
55? Et c'est un circuit de combien de personnes? Ça marche comment?
Alors, c'est un circuit ITF, donc, qui est sous l'égide de la Fédération internationale de tennis, hein, qui rejoint les juniors, la WTA, l'ATP. Donc, c'est sur le même principe que les pros. C'est un circuit pro, d'ailleurs,
Par
vétéran.
catégorie
On est
d'âge?
par catégorie de 5 ans. Donc,
D'accord.
50, 55, 55, 60. On est environ entre 2000 et 2500 par catégorie.
Ah ouais, quand même.
Plus on vieillit, bizarrement, enfin, c'est un peu la logique du circuit vétéran, mais plus on vieillit, plus on a du temps, donc plus il y a de monde en fait sur ce circuit.
Et plus les mecs sont forts ou pas du tout?
Le niveau est relativement homogène, on va dire, sur le circuit. Je parle des meilleurs, hein, dans toutes les catégories. Après, dans une tranche, on trouve à peu près la même répartition que le niveau français. Par exemple, moi, sur les gars que je joue de 30 en 55, je joue de 30 à 4-6 environ. Actuellement, je suis descendu de catégorie pour jouer des joueurs un peu plus forts. J'aime le risque, on va dire.
Ah, tu peux te t'inscrire dans un plus de 50 ans, quoi.
C'est ça. Même ça démarre à 35 ans. Donc,
Ouais.
si tu as
Ah
envie de te
ouais.
prendre des tôles, tu peux aller te frotter à des 35 ans. Bon, ce que je ferai pas, mais ça peut être sympa aussi.
Et du coup,
Donc,
quand tu fais un déplacement, par exemple, tu vas en Espagne, tu peux dire, OK, je suis là X jours, je vais pas faire que les 55 ans, tu peux faire un ou deux autres tableaux pour te mettre en jambes et tout,
non,
quoi.
c'est un tableau de simple par tournoi, et après tu peux rajouter un tableau de double, soit double mixte, soit double homme. Moi, aujourd'hui, j'ai un problème de capacité d'enchaînement de match, pardon.
Ouais.
Donc, je privilégie les simples pour l'instant, et quand je fais un double, c'est vraiment pour occuper le temps ou s'amuser si je suis sûr de me faire battre en simple. Voilà, dans l'organisation. Après, il y a une particularité qui est quand même très intéressante, c'est que les tableaux, c'est un démarrage en ligne pour tout le monde, quel que
Ouais.
soit le ranking. Donc,
Ah ouais, il y a pas de tête de série.
alors, il y a des têtes de série, mais on rentre tous ensemble.
OK.
Donc, les tableaux, c'est environ 5-6 tours pour gagner le tournoi, généralement, par rapport au nombre de personnes. Il y a aussi une consolante, donc on a une garantie de jouer deux matchs à chaque
Sympa.
fois. Mais surtout, quand j'étais 55, j'étais un peu protégé, comme tu disais, avec le ranking sur les têtes de série. Et ça permet de jouer des joueurs, on va dire, à 15-3, 15-2 au premier tour, qui sont un peu faciles, on va dire, qui permettent d'une mise en jambe. Et après, très vite, tu joues des joueurs de ton niveau tableau, mais en France, on a cette difficulté qu'au premier tour, on joue tout de suite, généralement, un gars de son niveau.
D'accord.
Et si on a la chance de gagner en compression et en perf, on rejoue aussi des mecs qui sont très proches de notre niveau. En
Ouais,
ITF, on
pas
peut
de.
jouer. Voilà, il peut y avoir des grosses différences de niveau en ITF.
D'accord, ok. Méga intéressant. J'ai jamais trop poussé cette porte-là. Donc, je suis ravi d'apprendre et puis de faire connaître. Avant d'aller un peu plus loin dans l'histoire en lien à ton cancer. C'est quoi ta répartition de tournois du coup entre France et étranger? Et si tu devais donner un top 2, top 3 des tournois les plus cools que tu aies fait sur ce fameux circuit?
Alors, j'ai aussi fait des qualifs de futur. J'ai
Ok.
fait 7 futurs en qualif. Et donc ça, je pense que c'était ma meilleure expérience.
Mais ça,
C'était.
pas en vétéran toujours ou comment ça marche?
Non, non, en classique,
Ah ouais,
en
en
Pro Division.
classique. Ah ouais, c'est osé parce que là, le niveau est quand même méga relevé, quoi.
Sais pas si vous. Enfin, je pense que beaucoup connaissent Arthur Raymond, par exemple,
Redis-le qui
Maxence
c'est?
Bauger.
Maxence
Maxence
Bauger,
Bauger.
ouais. Maxence, il est quoi,
Voilà.
500 à peu près?
400, ouais, je crois. Donc ça, c'est des gars avec qui j'ai tapé ou avec qui j'ai joué en tournoi en qualif de futur. Et là, l'objectif, comme tu disais tout à l'heure, c'était de présenter mon association Sport Santé, donc
D'accord.
l'EUGA,
Ouais.
et de montrer qu'on pouvait jouer soit sous chimiothérapie, soit en phase de récupération, à un bon niveau. Ce qui me permettait moi aussi de me donner des objectifs de niveau et de travail. Sachant que j'étais inscrit, par exemple, dans un mois, à un tournoi que j'allais jouer un gars entre moins 15 et numéro,
Ouais.
ça m'obligeait à m'astreindre à une préparation physique et à un niveau d'entraînement pour pas être ridicule lors du match. Après, j'ai
Okay.
une énorme chance, c'est que je suis un contreur. Donc, pour ceux qui connaissent le tennis, je pense que vous êtes beaucoup à suivre ce podcast. Un contreur, c'est quelqu'un qui utilise la vitesse de l'autre. Et
Il y a
malgré
que,
mon âge,
sois
voilà.
rassuré, il y a que des joueurs là qui écoutent, hein, donc t'as pas besoin de nous refaire la genèse d'un contreur, t'inquiète pas. Hein.
Bon, ben voilà. Donc, vous avez compris, voilà, j'ai cette chance-là. Et du coup, j'ai pu m'amuser. Et d'ailleurs, les statistiques lors de ces matchs qui sont vachement intéressantes m'ont fait découvrir que j'avais gagné la moitié des points du match par rapport à mon adversaire. Donc,
Alors,
par
t'as
exemple,
joué qui? T'as joué qui en premier tour qualif?
sur Maxence Bauger, qui est 400, qui devait être 23 ou 25 français à l'époque, il a fait 54 points et j'en ai fait 28.
Ok.
Donc, j'ai marqué un jeu. Le résultat est là parce que vous le savez tous, c'est pas parce qu'on marque des points qu'on marque des jeux. Donc, j'ai pris 6-1, 6-0, mais il m'a respecté.
Ah, t'es pas
Donc, pour l'instant,
reparti en vélo, hein?
non, je ne suis jamais reparti en vélo pour l'instant. Mais pour la petite anecdote, Maxence, premier service du match, donc on joue sur le central, ça devait être à Bressuire, je crois, sur un 25 000 dollars. Bah, il sert à 195, donc je touche pas la balle. Donc on a bien sûr la vitesse affichée sur le central du tournoi avec arbitre de chaise, ramasseur de balles. Enfin bon, c'est conditions top où on kiffe vraiment
L'événement.
le moment, l'événement. Je dis rien, je change de côté, il resserre de l'autre côté, 204. Donc là, je dis à l'arbitre, mais merde, c'est pas limité à 180 comme sur les autoroutes, il n'y a pas de limitation de vitesse ici. Et je prends un warning parce que j'ai dit merde. Donc, il faut savoir que sur le circuit ITF, c'est comme sur le circuit ATP. Donc, un warning, ça va, mais au deuxième, bah, c'est une pénalité financière. Bon, donc on n'est pas arrivé à là. L'arbitre a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu, le
Ça
public,
va.
l'arbitre, voilà. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est d'être respecté dans ma démarche. Et je pense qu'au vu des articles qu'on a eus, puisqu'on a eu quelques articles de presse derrière, j'ai été apprécié dans cette démarche. Ils m'ont appelé la mascotte des
Énorme,
ITF
énorme.
parce que bah, je permettais aux joueurs quand même de passer un tour en qualif. Et pour moi, c'était pas la question de gagner, c'était la question de combattre et de reconstruire cette
Bien,
deuxième vie.
bien vu, super, super opération. Juste avant de nous expliquer l'assaut et son rôle et son but, dis-nous les top 2, top 3 des tournois vétérans. Les cadres, j'en sais rien,
Alors,
Jamaïque,
le cadre,
ça paraît dingue. Est-ce que la terre
la
battue
Jamaïque,
était
c'est
bonne?
magnifique.
Fais-nous
La
voyager.
Jamaïque, c'est magnifique, c'est sur dur.
Ouais.
Avec les palmiers autour, c'est un cadre paradisiaque, mais c'est un tout petit tournoi. C'était le tournoi interne de la Jamaïque, l'équivalent du championnat de France au championnat de Jamaïque. Globalement, sur le circuit ITF, on joue que dans des cadres magnifiques. Au dernier tournoi à Rome, on a joué en même temps que le tournoi ATP de Rome où il y avait Djokovic. J'ai eu la chance de loger dans le même hôtel que Djoko d'ailleurs,
Mais attends,
d'assister
c'était
à l'ancien.
pendant le Master 1000?
C'est pendant le Master 1000, ouais.
Énorme.
En fait, nous, on est sur des cours annexes qui sont, il y a 23 cours. Enfin, c'est magnifique. Donc, globalement, dans tous les ITF, c'est des hôtels assez luxe, spa. Qui peuvent héberger les gens dans de bonnes conditions. Et les cours sont magnifiques. Le dernier tournoi que j'ai fait, c'est Beaulieu, en France, à côté de Monaco. C'est, je pense, les meilleures terres battues du monde en qualité, en entretien. C'est au bord de la mer. Donc, l'autre avantage des ITF, c'est qu'on joue toute la saison. Donc, on parlait d'Espagne, mais il y a aussi Nice, Monaco, Beaulieu, Menton, des tournois qui sont actuellement en cours, où on peut aller profiter du soleil pendant qu'il fait un peu temps gris en région parisienne.
Et tu parles des hôtels avec des installations de dingue, c'est payé ou c'est à votre charge?
Alors non, les hôtels sont, comment dire, l'organisation, les hôtels, les inscriptions sont offertes pour le top 10 mondial.
Ah ouais.
Donc, il n'y a que l'élite qui en profite, un petit peu comme sur le circuit ATP.
Ouais.
Après, les hôtels sont suggérés par l'organisation, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, bien sûr, c'est une question de moyens financiers. Je parlais tout à l'heure de mes débuts en ITF, où j'accompagnais, où on était à plusieurs. Ben, en fait, on prend du Airbnb en partageant les apparts, souvent, pour essayer que ça coûte pas trop cher. Parce que budget par tournoi, on est quand même entre 500 et 800 euros d'investissement par tournoi.
Pour une
Sachant qu'il y a,
semaine?
ouais, pour une semaine. Donc, faut le prendre comme une semaine de vacances, même si on le fait sérieusement,
Ouais.
en termes de budget. Après, moi, j'ai la chance d'avoir des mécènes et des sponsors qui
Ah
m'accompagnent
ouais.
sur le sujet. Je suis aussi ambassadeur, on va dire, de l'ITF par la démarche que j'ai eue. Ils me
D'accord.
soutiennent au niveau international. J'ai Wilson qui m'équipe depuis que j'ai été malade. Avant que je sois malade, il me fournissait juste des raquettes en tant que joueur
Ouais.
par rapport au classement français. Et en fait, quand j'ai été malade, ils ont décidé de m'équiper complètement, ce qu'ils appellent en 360, donc les vêtements, le cordage, les chaussures,
Oh,
enfin
t'as de la
tout.
chance. En plus, les fringues sont sublimes là dernièrement.
Ouais, ils sont plutôt sympas. Je passe par le groupe Hammer Sport, hein, qui est le distributeur en France de Wilson.
Le mec est en lien avec les US. Impeccable.
J'en profite pour les remercier. Non, c'est une démarche. C'est une démarche vraiment qui a été sympathique et bienveillante de leur part, parce qu'ils m'ont rien demandé en contrepartie. Bon, sachant que de toute façon, je joue le jeu en termes de visibilité et dès que je peux en parler et les
Mais
remercier, je
tu
le
dois être
fais.
tellement, même si c'est anecdotique, quand on sait que toi, tu pourrais ne plus être là, mais tu dois
C'est
te
ça.
sentir tellement bien dans tes tenues assorties, fraîches, comme les joueurs et tout, mais c'est avec les pompes qui vont avec. Oh, le
Non,
kiff!
c'est magnifique, franchement. Franchement, c'est magnifique ce que je dis. C'est cette seconde vie, comme tu dis. Quand on m'a diagnostiqué le cancer, il faut revenir à la base. On m'a annoncé quand même 70% de chances de mourir. Donc 30% de chances de survie. Tu te dis, bon, ok, je prends un dé à 10 faces, je le lance. J'ai 3 chances de survivre et 7 chances de mourir. On va combattre. Après, une fois que le traitement fait effet, on te dit, bah là, tu as 30% de chances de rechute. Malgré tout, le sport augmente la probabilité de survie et de non-rechute. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association PlayAgain. C'est que je me suis rendu compte, et après, ça a été vérifié par les statistiques et les médecins, que faire du sport pendant une chimiothérapie, c'est très bon. Mais faire du sport après la chimiothérapie, une fois qu'on est en rémission, il y a 30% de rechute en moins. Et c'est une des promotions que je fais avec l'association. Et une des raisons pour laquelle j'ai voulu créer cette association, c'est pour aider maintenant les autres à faire du sport pendant leur traitement.
Ok, on y vient, on y vient. Combien te coûte ta saison sur le circuit vétéran?
Alors, à moi, zéro.
Ah ouais, du coup, t'arrives à être à... incroyable,
Moi, je suis équilibré et c'est
très payé.
voilà. Et c'est le deal que j'ai fait avec ma femme, c'est de pouvoir jouer entre guillemets gratuitement. Donc j'ai des mécènes qui sont des entreprises qui m'ont aidé fonds scratch, comme on dit, sans aucun retour au départ.
Et t'es allé les chercher comment?
Bah, en fait, c'est des amis qui ont des sociétés qui m'ont dit, écoute, moi je vais t'aider. J'ai joué aussi des joueurs que j'ai rencontrés. Des fils de patrons avec qui on s'est bien entendu sur le terrain, ça s'est bien passé. Des gens qui avaient peut-être pour certains des comportements un peu compliqués, on va dire, mais que j'ai respecté. Et sur une confrontation d'un plus de 55 ans avec un 20 ans, souvent ça se passe pas très bien. Et en l'occurrence, avec moi, ça s'est très bien passé. Et j'ai l'exemple d'un papa, par exemple, qui veut rester anonyme, mais qui m'a dit, écoute, je vais t'aider, moi, dans ce que tu fais et tout, dans les démarches
Wow.
que tu as eues. Et donc, il m'a aidé en me disant, je te sponsorise 3 tournois, donc 3 fois environ 1 000 euros dans l'année, sachant que, par rapport à ce que tu me posais comme question, aujourd'hui, je fais 50% de tournois en France, bah, qui sont gratuits, qui sont un peu difficiles en organisation, en termes d'horaire, parce qu'on me demande à chaque fois de jouer tard le soir. Et moi, j'ai toujours ce besoin de me reposer beaucoup le soir, je tombe de fatigue, ça c'est la suite des traitements. Et puis 50% bah, à l'étranger, j'essaye de faire une dizaine de tournois dans l'année, donc 5 sur des ITF et 5 en France, et après on rajoute le championnat du monde vétéran, championnat d'Europe, championnat de France seconde série. Bon, cette année je me suis fait cirer à 5-6, et bon, par un petit jeune que je pensais bien battre pourtant, mais qui gagne derrière à 3-6 en deux petits sets, donc ça m'a rassuré.
Ouais,
Bon niveau.
grosso modo, si on est bon comme toi à plus de 50 et qu'on veut se faire un kiff comme ça, c'est une année à entre 10 et 15 000, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, après, t'es pas obligé de faire l'année complète. Pour avoir un classement, l'ITF prend 4 tournois en compte. C'est le même principe que l'ATP, c'est sur 12 mois glissants. Là, par exemple, j'ai redémarré dans la catégorie 50 ans pour avoir des adversaires un peu plus conséquents. J'ai fait un premier tournoi, un ITF 700, où je fais quart de finale. Et je suis passé tout de suite de 2005, donc j'étais non classé, on va dire, sur cette catégorie. Donc j'avais aucun tournoi. Je suis passé à numéro 700, 729, je crois,
Okay.
en un quart. Donc on peut très vite monter top 500, enfin, pour un joueur, on va dire, au-dessus de 15-3 en niveau. Par exemple, sur ce tournoi, je bats deux gars, dont un Américain assimilé à 15-1, et je perds en quart contre le numéro 1 turc, qui est 23e mondial et donc qui est en équivalent français, qui est 4-6 sur le palmarès, qui joue entre 4 et 3, quoi.
Et il y a des
Donc,
nationalités où tu te dis, oh, les Ricains, ils sont sous-classés ou surclassés, ou telle nationalité,
non, parce que,
les
alors,
mecs sont durs à jouer, ou là, ça sent rien.
la règle est homogène pour le classement international. Donc, quelle que soit la nationalité, je dirais le classement est bon si la Fédé, cette année-là, donne un barème correct. Actuellement, c'est très correct. La seule chose, c'est la différence de style de jeu. Tu joues un
Okay.
Polonais ou tu joues un Anglais ou tu joues un Espagnol. Prenons les deux extrêmes. Attention à ce que je vais faire attention à ce que je dis. Un Espagnol et un Anglais, bah, l'Espagnol, il va plutôt se ruer au filet sur un joueur d'herbe ou un joueur de rapide. C'est des gars qui jouent essentiellement, je pense, sur court couvert, donc qui ont développé une technique de jeu agressif.
Ouais, les
Les
Anglais, ouais.
Espagnols, voilà, les Espagnols, c'est des gars qui jouent sur terre extérieure, enfin, style Nadal, voilà, on va pas polémiquer, hein, faut le dire clairement. Donc là, il y a une opposition de style par nationalité. Le joueur polonais, par exemple, je fais des raccourcis, mais c'est souvent le cas. On va dire la majorité des joueurs polonais sont des joueurs avec une technique particulière, prise très marteau. Voilà, mais c'est des gars qui ont des très bonnes jambes et qui ont un jeu assez complet.
Et les Américains?
Les Américains, j'en ai pas joué à seul pour stéréotyper. Les Italiens sont des joueurs compliqués à jouer dans la discussion et dans le respect, comment dire, de l'environnement dans lequel on joue. Les balles sont variables. Il y
Et
a souvent des discussions.
vous avez des
Voilà.
arbitres à chaque fois?
Alors, il y a un arbitre tous les trois cours, en fait, à minima dans les premiers tours. Et après, oui, on peut faire appel à un arbitre dans les plus gros tournois, les championnats d'Europe, championnats du monde et les ITF 1000. On a des arbitres. Après, ça descend. Il y a 700, 400, 200 et 100. Il y a cinq catégories, si je dis pas de bêtises. Les plus petites catégories, les points sont donnés en fonction de l'organisation. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais un ITF 200 est, entre guillemets, moins bien organisé, moins bien structuré en termes d'accueil et en termes de logistique qu'un ITF 1000. Voilà, ils ont moins de contrats. Il y a
Comme
quelques
les
marges à...
250, 500 et 1000 à
Voilà,
ATP.
c'est les mêmes
Et du coup,
choses que les chiffres.
les Italiens s'agrugent un peu.
Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais j'ai levé le ton sur quelques Italiens, on va dire.
Ça s'embrouille un peu sur les vétérans.
Bah, ça s'embrouille, si tu veux. Quand tu joues avec trois balles, que tu es comme moi, que tu aimes bien choisir tes balles avant de servir en termes de routine, quand tu en as une de l'autre côté, que tu lui demandes la troisième et que le gars il te répond, je suis pas ramasseur de balles, tu en as déjà deux, tu peux jouer. Tu lui dis, mais c'est quoi quel est le problème, quoi? On est là, moi, j'ai en plus, moi, il me connaissait pas, mais moi, je suis là dans une seconde vie, je suis là pour kiffer le truc, je prends tel plaisir à jouer que j'oublie souvent le plaisir de gagner, donc je manque de concentration dans ce cas-là. Donc après, j'appelle un arbitre et je demande si je peux aller moi-même chercher la balle. Eh ben non, t'as pas le droit d'aller de l'autre côté. Donc, et la règle que j'ai découverte, c'est que deux balles te suffisent pour servir. Donc, il n'a aucune obligation de te renvoyer la troisième.
Je savais pas.
Mais bon, le gars fait ça pour te faire, voilà. Je vais
Te
pas te
faire des
dire pour
boutilleurs.
aucun intérêt, quoi.
Alors, à
Donc,
quel moment est-ce que tu crées l'association Play Again? Comment t'y penses et comment tu fais?
alors.
Ça sert à quoi? Explique-nous tout ça, s'il te plaît.
Volontiers. Donc, je crée en septembre, donc il y a 2 ans maintenant, 1 an et quelques mois, l'association, avec pour objectif d'aider, donc l'association Play Again, avec objectif d'aider les gens à faire du sport ou à avoir une pratique physique pendant leur traitement, de façon à encaisser les traitements.
Toi,
Ce
t'es
que j'ai
remis
fait.
à ce moment-là? T'es sorti?
Non, je suis en cours de rémission, ce qu'on appelle.
Ok.
Donc, j'ai une probabilité de rechute forte, mais j'ai surtout plus de métier. Donc, je cherche quoi faire pour m'occuper, sachant que j'ai décidé de faire beaucoup de sport pour ne pas rechuter et
Tu
me
faisais quoi comme
reconstruire.
job?
J'étais directeur commercial dans l'informatique, je plaçais des gens. Et dernièrement, j'avais une société à moi où je m'occupais d'Instagram et de Facebook pour des comptes clients. Je les aidais à faire des publications. Mais comme j'étais malade,
Incroyable.
il y a un moment, j'ai été trop faible et j'ai perdu tous mes clients, ce qui est normal. Enfin, je leur ai dit que je pouvais plus m'occuper d'eux. Donc j'étais obligé de fermer la société. Après,
Et alors, juste une petite parenthèse, c'est ouf qu'un mec de
vas-y.
50 piges conseils des gens sur les réseaux sociaux. Enfin, t'es moderne, quoi. T'es là, t'es dans la place.
Pas
T'es
Je sais pas
en
si mes conseils
forme.
étaient bons, je sais pas si mes conseils étaient bons, mais en tout cas c'était tendance, je m'y intéressais, j'étais dans l'informatique,
Ouais.
j'étais dans le sport, j'ai été actif quand même sur les réseaux et avec mon profil perso, j'avais créé un profil pro Guillaume Delamarre ITF où je communiquais sur les rencontres que j'ai pu avoir. J'ai eu la chance, on n'en a pas parlé, mais sur le tournoi, de rencontrer plein de joueurs pro, dont Rafa, dont Joko et autres, qui étaient vraiment sympas et bienveillants. Bon, bref.
Raconte-nous,
Donc,
si, rencontre avec Raphaël Joko, faut que tu nous dises, là. Attends, wow.
bah, avec Rafa, pendant que j'étais malade, je vais donc dans son académie faire un tournoi ITF. Et puis, je vois un petit jeune qui traîne sur le bord du court. Moi, je suis le matin très tôt avec mes raquettes dans le dos. Et je lui dis, bah, tiens, tu veux pas taper la balle? Bon, c'est un gars de l'académie que je connaissais pas. On tape. Je trouve qu'il tape vraiment bien.
Quelle année?
C'était un junior,
Non, mais
donc
toi,
c'était
là c'est. Nous, c'est.
c'était en 2021 ou 2020.
Ok.
Donc moi, je suis en début de chimio, donc j'ai pas trop fondu, j'ai encore un bon niveau de jeu. Et en fait, la chimio, bah, tu as des phases avec des cycles, hein, des phases très basses et des phases normales. Donc je suis sur une phase où je joue correctement, on tape la balle. Et je lui dis, mais t'es combien? Il me dit, bah, je suis 1200. Je lui dis, t'as quel âge? Il me dit, j'ai 16 ans et demi. Bah, je lui dis, c'est pas mal, 1200, 16 ans et demi. Et je lui dis, et je peux prendre une photo parce que j'ai une fille qui a à peu près ton âge. Je vais lui envoyer, elle va kiffer un peu de voir que je joue avec un bel Espagnol. J'envoie la photo et avant d'envoyer la
Esprit
photo, je lui dis, mais,
d'équipe.
ouais, je lui dis, mais comment tu t'appelles? Il me dit, Tony Nadal. Je lui dis, Tony Nadal. Mais je lui dis, mais comme l'oncle de Rafa? Il me dit, bah oui, c'est mon père. Ah, je lui dis, Tony Nadal, c'est ton père. D'accord, ok. Bon, donc je renvoie. Donc
Mais comme
en Espagne.
Rafa qui a appelé son fils Rafa, je crois.
Ouais,
Pareil.
alors justement, c'est ça. C'est la tradition là-bas. C'est que le premier fils prend le prénom de son père. Donc Rafa Nadal a appelé son fils Rafa. Tony Nadal, l'oncle, a appelé son fils Tony. Donc ça, pendant ma phase où j'étais malade, je joue avec lui. Du coup, je passe la semaine là-bas. C'est l'époque où Rafa s'était cassé les côtes. Je ne sais pas si tu te rappelles, il a eu un problème aux côtes. Donc, il était revenu. Je crois qu'il n'avait pas joué Monaco. Il était revenu avant Roland s'entraîner chez lui. Et en fait, je me retrouve dans la salle de gym avec Rafa derrière, en train de. Moi, je faisais du vélo pour m'échauffer. Et Rafa, c'est sa salle de gym à lui, hein, dans son académie, derrière, poussait de la fonte, enfin de la presse avec les jambes. Donc après, on se recroise dans les couloirs et je lui dis, ah, Rafa, est-ce qu'on peut prendre une photo? Et il me dit, ouais, bien sûr, pas de problème. Et puis là, je suis comme un gamin avec mon appareil photo, avec mon téléphone, comme ça. Ah là là, j'arrive même pas à prendre la photo. Et le gars qui est avec lui me prend l'appareil et il me dit, je vais le faire pour toi. Je dis, tiens, il parle bien français, celui-là. Et il prend la photo et je me retourne et je regarde, c'est Carlos Moya. Donc
Énorme. Ah,
Carlos
il parle bien
Moya, première.
français, Carlos, je savais pas.
Ouais, bah, là, en l'occurrence, il avait fait l'effort de parler bien avec moi. Il prend la photo et je dis, mais Carlos, quand même, moi, tu es une de mes légendes. J'étais à ta finale à Roland quand tu as gagné avec Babola à l'époque. J'étais dans les tribunes et tout. Et là, j'ose même pas demander à Rafa de me prendre la photo avec Carlos, quoi. Ça se fait pas.
Bah
Et voilà,
si, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle.
la première rencontre avec Rafa, c'est ça. Et là, il y a un mois, quand Rafa était en train de préparer l'Open d'Australie, je refais le tournoi ITF de l'Académie,
Majorque.
Majorque, et je rencontre de nouveau Tony Nadal avec un autre jeune. Donc je cours pour lui dire bonjour. Salut Tony, ça va? Tu te rappelles de moi? Ouais, ok. Il se rappelle et il me dit, bah, tiens,
Excellent.
je te présente Juan Nadal, mon deuxième fils. Bah, je lui dis, bah ouais, bah. Et là, on est obligé de faire une photo ensemble, Juan, parce que j'ai fait une photo avec ton frère Tony. Là, quand j'étais malade, maintenant que je suis en rémission, je te vois. Il me dit, bah, on va faire mieux que ça, tu viens sous les couverts avec nous. Et en fait, je tape la balle avec Juan Nadal et Tony qui nous filme pendant qu'on tape. Et au bout d'un quart d'heure, qui rentre sur le terrain, alors je comprenais pas, il y avait de la sécurité, ils avaient mis du craft sur les vitres et tout. Bah, Rafa rentre sur le terrain pour s'entraîner et se préparer à l'Open d'Australie. Donc là, moi, imagine, je suis sur un court à jouer avec encore un gars numéroté parce qu'il est 1400, je crois, ATP. Donc ça joue au minimum moins 4, moins 15, quoi, tranquille,
Mieux, ouais.
peut-être numéroté. Le mec est adorable, on prend des photos, et à côté, il y a Rafa qui tape la balle. Donc, je me fais petite souris, je m'assois pendant 1 heure et demie, je kiffe l'entraînement privé, on est en milieu cloisonné. Et puis, à la fin de l'entraînement, je vois le coach de Rafa qui sort une casquette et un t-shirt pour faire signer à Rafa, mais ils n'ont pas de stylo. Et moi, comme tu disais, j'ai créé une association et maintenant, je me balade toujours avec un gros feutre pour choper des dédicaces quand je croise des joueurs. Et donc, je sors mon feutre et je vais voir Rafa. Je lui dis, tu veux mon feutre pour signer? Elle me dit, ah, c'est cool, merci. Alors, en anglais. Donc, on s'assoit, je m'assois à côté de lui, il dédicace ces deux trucs et je regarde les badges, je vois Open d'Australie. Enfin, c'est OA dessus
Ouais.
le logo. Donc, j'en prends une et je dis, bah, Rafa, par contre, si tu veux m'en dédicacer une. Comme je t'ai prêté. Voilà, donc là, il me fait une baffe. Ça doit être derrière. Tiens. Hop là. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez.
Trop bien.
Balle
T'as
de
même des
l'Open d'Australie.
trophées de son académie.
Ouais, bah oui, j'ai gagné. Bah ils sont derrière. Donc j'ai gagné, en fait, voilà, le tournoi en consolante. Parce que j'ai pris
Excellent.
un premier tour sur, le nom m'échappe, mais c'est le père d'un joueur pro espagnol actuel. J'ai eu un mauvais tirage au premier tour. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que sur les ITF, on part en consolante en tableau inversé.
Ouais.
Et donc, j'ai gagné la consolante, et du coup, on a un trophée.
Énorme. Et Tony Nadal, le fils de Tony, il devient quoi? Il est combien?
Alors, le fils de Tony, il est reparti faire des études à Barcelone actuellement.
Ah, il a mis le tennis un
Juan,
peu entre parenthèses.
ouais, je pense qu'ils ont décidé que le niveau relatif actuel ne lui permettrait pas d'en vivre en tant que joueur. Par contre, il y a suffisamment de place dans l'académie pour qu'il trouve sa place, mais il faut que je pense qu'il développe des compétences et une formation. Bah, qui choisira, hein, soit sur le commerce, le marketing, il y a plein de choses, l'entraînement. À la fin, donc j'ai rencontré Tony quand j'étais malade, Juan pendant que j'étais en rémission, et je me retrouve à discuter avec Rafa. Donc là, on prend des photos. Il me dit, enfin, c'est Juan qui prend les photos, donc Rafa dit, bah, si c'est Juan qui prend les photos, tu vas perdre des followers parce qu'il est incapable de faire des bonnes photos. Donc on se marre tous les deux. Donc j'ai cette vidéo qui est un souvenir mémorable. Et je lui dis, mais c'est pas ça qui est important, c'est que tu m'as donné de la force pour moi revenir avec en tant que légende et en tant qu'aficionado de Rafa. Tu m'as donné de la force pour revenir et maintenant c'est à moi de t'en donner un petit peu pour l'Open d'Australie, puisque je sais que tu as eu un accident de vie aussi, que tu essaies de revenir sur le circuit. Donc c'est mon tour de donner de la force. Et là, Rafa était super bienveillant. Il m'a posé des questions sur comment je me sentais, comment j'allais maintenant, etc. Il m'a dit un truc qui est extraordinaire, qui m'émeut encore. Il m'a dit, bah, la prochaine fois, comme tu as joué en étant malade avec ma famille, en étant en rémission, la prochaine fois, on fera un double ensemble, tous les quatre, quand tu seras guéri.
Oh, génial.
Donc, ce truc-là, c'est énorme.
Tu m'étonnes. Magnifique. Putain, c'est beau,
Voilà,
ça.
je suis désolé. Je suis encore très sensible sur certaines choses. Je pense que c'est aussi les effets du traitement qui secoue aussi bien physiquement que moralement. Mais quand un mec comme ça vous dit des paroles comme ça, c'est top.
C'est merveilleux. Allez, Novak, balance.
Novak, bah, je suis à Rome, inscrit sur un ITF avec un copain monégasque où on partage une chambre. Et on se retrouve dans un hôtel très correct parce que du coup on a partagé les coûts et on a choisi quand même de vivre la bonne vie pendant Rome, puisque moi j'avais jamais visité Rome.
J'adore.
L'hôtel bénéficie d'un accès sur un court, sur non, un court, trois cours en terre battue privée pour l'hôtel. Donc on
Wow.
se dit, tiens, bah, on va taper la balle là-bas. Je m'entraîne, je vais voir le prof, il me prend comme sparring pour un de ses élèves parce que bon, les cours étaient très pris. Et on finit l'entraînement, je sors du cours et je vois un Brésilien connu, numéro un brésilien actuel, Montero.
Ouais.
Montero. Donc je vois ce joueur qui arrive avec un contrat Wilson aussi. Donc ah, putain, je me dis merde,
La même
un cousin,
famille.
chouette la famille. Il dit salut,
Amuse
ça va?
sport.
Je le reconnais pas, franchement je le reconnais pas.
Ouais.
Il a quand même été 23e mondial, hein.
Il est là, le Thiago.
À son meilleur classement. Et je lui dis, mais tu veux taper la balle là? Je suis tout seul, le cours est libre. Il me dit, bon, vas-y, on tape un petit peu. On
Ah,
tape.
c'est là où avoir du culot, c'est bien. Franchement, c'est top. Parce que
Non, mais là,
ça fait vivre des trucs de ouf.
je m'arrête au bout de cinq frappes. Parce que
Mais
je vais le voir. Et je...
mais c'est comme le fait de taper avec le prof juste avant parce que les cours sont pris. Quelque part, t'oses y aller, t'oses demander.
Bah oui, moi
Et
j'avais envie
puis,
de jouer.
une
J'avais
fois
envie de
que
jouer.
tu es sur le court, tu parles la même langue. C'est génial.
C'est
Ça
ça.
crée des moments géniaux.
Le
Franchement.
tennis est une grande famille. Le
Ouais, mais
tennis.
faut oser le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent comme toi, je pense. Et là-dessus, t'es fort quand même.
Ah, ouais, je te remercie. Après, comment ça se passe avec le prof? Je vais voir le prof, je lui dis, moi, je veux bien être sparring, je pense que j'ai le niveau de n'importe quel de vos élèves, donc ça les fera kiffer de découvrir qu'un vieux joue correctement. Bon, voilà, je suis un peu sûr de moi.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Effectivement, après, c'est un risque que l'on prend, hein. Mais effectivement, ça se passe bien. Bon, bref, je me retrouve avec Thiago à taper 5 balles, et là, je m'arrête, je lui dis, mais excuse-moi, c'est quoi ton nom? Parce que j'ai un trou de mémoire. Il me dit Thiago Montero. Ah oui, je lui dis, c'est ça, pour ça que mais tu fais le tournoi de Rome. Il me dit, oui, je fais le tournoi de Rome. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là sur ce cours-là tout seul? Il me
Ouais.
dit, ben, j'attends le boss. Et je lui dis, t'attends le boss. C'est qui le boss? Il me dit Djokovic.
Ah oui, quand
Je lui
même.
dis, t'attends Djokovic. Donc on joue 10 minutes parce que Djokovic est arrivé en retard. Et là arrive Djokovic avec son staff, donc 5 mecs. Le préparateur, le kiné, le coach, deux gardes du corps. Il y a une sorte de bulle qui se crée autour du court. Donc il y a personne. Il y a deux trois clients de l'hôtel qui sont là mais qui connaissent même pas Djokovic.
Il est où l'hôtel, juste?
Il est à l'extérieur de Rome à 10 minutes. J'ai plus le nom en tête, mais enfin c'est un bel hôtel 5 étoiles, voilà.
Oh,
Après,
génial.
j'ai découvert que Djokovic avait tout un étage avec les suites qu'il avait bloquées pour lui,
Wow.
avec son propre cuisinier. Il avait envoyé un mois avant la liste de tout ce qu'il voulait avoir, parce qu'il a un régime et une préparation qui est très, très particulière.
C'est ça qu'on aime.
Je suis pas rentré dans les détails, mais
Ouais, comment
voilà. Je
ça?
me retrouve en fait sous une
Il t'a
bulle.
pas invité à déjeuner.
Non, bon, il ne m'a pas invité à déjeuner, mais je me retrouve sous une bulle virtuelle.
Ouais.
Qui est le court de tennis extérieur, en terre battue magnifique, où le directeur de l'hôtel se met à passer le filet pour Djokovic.
La base.
C'est quoi ce monde-là? Et toi, tu es sur le court, tu regardes à droite, tu as Ivasinevic, tu regardes à gauche, tu as Djokovic, tu regardes en face, tu as Montero qui est mort de rire. Et je dis à Montero, on va faire un truc, parce que j'ai un de mes fils qui s'appelle Henri, qui est fan de Djokovic. Je lui dis, est-ce que tu peux faire une petite vidéo là? Et je lui envoie. Et il me dit, mais ouais, on va faire ça tranquille en anglais. Et il prend mon téléphone, il se met avec moi et il dit, il s'appelle comment ton fils? Henri. OK. Hello Henri, je suis avec Guillaume, je vais vous le traduire. Je suis avec Guillaume au bord du court. On attend le boss, on va s'entraîner avec Djokovic. Et là, il tourne le téléphone et il montre Djokovic qui fait un pouce comme ça. Il sait pas ce qu'on
Incroyable.
a dit. Et j'envoie ça à mon fils qui me rappelle tout de suite. Il me dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur le court avec Djoko et tout.
C'est
Et
énorme.
là, je réalise que je suis dans une situation improbable.
Bah ouais.
C'est qu'on ne peut pas organiser un truc comme ça. Donc, c'est un enchaînement d'événements et, comme tu dis, un petit peu de culot qui fait que je me retrouve là. Et après, moi, bien sûr, je prends du recul, je sors. Voilà, Djokovic me file sa serviette
Ah,
que je remets
génial.
là. Donc, j'ai un souvenir, j'ai une photo en selfie avec lui.
Parce que tu lui parles de l'assaut à ce moment-là?
Non, parce qu'en fait, il est focalisé sur un problème sur son poignet. Et en fait, le but de cet entraînement, sans dire des choses qu'il ne faut pas dire, est d'essayer de corriger son geste et de traiter ce petit symptôme qu'il a au poignet. Thiago Montero, qui est quand même 23e mondial, enfin peut-être 50 maintenant, mais qui a été 23e mondial, est là pour lui faire des services kickés et qu'il fasse que des revers. Et il en fait pendant 1 heure pour essayer de trouver la position qui lui fait pas mal et la posologie, on va dire, entre le kiné et le physio qui lui mettent des huiles essentielles, enfin tout un tas de trucs, pour gérer cette douleur.
C'est risqué parce que forcément, Thiago, derrière, il va raconter aux potes que Novak
Non, non.
a le problème au poignet, tout ça.
Non, parce
C'est. Ah,
qu'il
ça
est géré.
parle.
Ouais, il est géré, mais ils ont tous des problèmes à un moment donné au
Oui, c'est
poignet,
vrai,
au
c'est vrai.
genou. Donc en fait, ils mettent en place des stratégies. On parlait de Rafa tout à l'heure. Rafa, il travaille actuellement des filières courtes de frappe pour s'économiser physiquement. Et là, pour la petite anecdote sur Djoko, Thiago lui fait peut-être, je sais pas, 50 kicks sur son revers d'affilée. Djoko renvoie. Et à un moment, Thiago, pour se marrer, il sert plein coup droit. Il fait un ace. Et là, Djoko s'arrête de jouer, s'avance, il dit non, je t'ai demandé sur le revers. Et tu dis, oula, le boss, c'est le boss.
Ah, c'était pas pour déconner, il dit, c'était vraiment pas pour rigoler, quoi.
Je pense pas que c'était pour déconner. Et là, tu te rends compte d'une certaine hiérarchie qui existe entre, on va dire, le top 3, enfin, moi, ce que j'appelle le top 3 de ma génération, c'est-à-dire Federer, Nadal, Djoko, qui sont des joueurs intouchables à un certain moment dans la saison, et des joueurs qui sont quand même numéro un de leur pays, top 50 et autres, qui deviennent sparring de ces joueurs-là en préparation dans certains tournois. Donc je pense qu'il y a une relation effectivement de maître à élève ou de top, enfin de master à élève, je sais pas comment on peut dire le truc,
Ouais.
mais
Pourtant,
il y a
sur une petite boutade comme ça, tu peux dire que Novak il peut rigoler, c'est pas le premier, c'est pas le dernier à se fendre la gueule en dehors du court, tu vois, mais
Ouais, je
t'as
suis pas
sérieux à
certain.
ce moment-là, quoi.
Je pense qu'il est inquiet sur sa petite douleur,
Ouais.
qu'il est vraiment très professionnel dans tout ce qu'il fait. On parlait de la nourriture tout à l'heure, de son encadrement, des médecins qui sont là, des physios et autres, et de la gestuelle qu'il met en place, du relâchement. Je sais pas ce qu'il cherchait à faire, mais il cherchait clairement à gérer, à savoir comment gérer cette douleur. Qu'une douleur ou qu'une gêne. Hein. Attention, j'ai pas dit qu'il était blessé ou autre. N'allez pas parier pour les adversaires de Djoko. C'est un gars qui a encore beaucoup de potentiel, je pense.
Alors du coup, on raccroche les wagons. Tu bosses plus, hélas, à ce moment-là, parce que tu es trop
Ouais.
diminué, mais tu es un gars très actif. Et du coup, tu as l'idée de cet assaut. Et alors, quel est son but et comment tu la fais vivre? Qu'est-ce qu'elle apporte? Raconte-nous.
Alors l'assaut. Donc l'assaut Play Again a pour objectif d'aider les gens financièrement à avoir une activité physique et plus particulièrement à faire du sport. Le principe qu'on a mis en place, c'est qu'il faut que la personne qui fait une demande d'aide ou de subvention à l'association ait un courrier de son médecin et que le médecin préconise et explique en quoi faire du sport ou avoir une activité physique est bon dans le cadre de la thérapie de cette personne pour deux raisons. Un, pour pas faire n'importe quoi, parce qu'on n'est pas thérapeute. Donc, je veux pas faire du 100 mètres ou du cardio à quelqu'un qui aurait un problème cardiaque, par exemple, puisqu'on est ouvert, bien sûr, aux gens qui ont du cancer, mais aux gens qui ont du diabète, aux gens qui ont d'autres maladies. Donc, à partir du moment où le sport dans le traitement apporte quelque chose, on va aider en tout ou partie, donc en fonction des moyens de l'assaut. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est aider les gens à se reconstruire après un accident de vie, donc le sur le principe de ce que j'ai eu. Donc ça peut être un accident de voiture, ça peut être une cheville foulée, ça peut être on aide par exemple quelqu'un qui essaie de se qualifier aux Jeux Olympiques para tennis, quelqu'un qui était prof de tennis, enfin qui est toujours prof de tennis d'ailleurs, mais qui a interdiction maintenant de jouer debout par rapport à une lésion qu'il a sur la moelle épinière. Donc il est maintenant en tennis fauteuil. Donc là, on l'aide financièrement dans son projet. On aide une dame, par exemple, qui a eu un cancer, qui a eu donc une chirurgie au niveau du sein. On lui paye. Donc elle avait des gros problèmes financiers. Je ne vais pas rentrer dans sa vie personnelle parce que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas être dévoilé, mais elle pouvait plus se payer un abonnement de yoga. Donc on lui a payé un abonnement annuel de yoga. On aide pas mal de personnes aussi sur des abonnements de salles de sport. Donc généralement, on participe par trimestre. On demande à la personne de payer un mois et nous, on paye les deux autres tous les trimestres et on renouvelle si besoin. Donc là, par exemple, on a quelqu'un qui a une dégénérescence musculaire, qui a besoin de faire du renforcement musculaire avec un coach adapté. Donc on a payé l'analyse par le coach et le programme à mettre en place, qui n'est pas donné au départ. quand ils nous demandent, puisqu'ils ne nous demandent pas tout le temps, parce qu'il faut qu'ils puissent y aller et utiliser la salle, on lui paye 2 mois sur les 3 à chaque fois.
Ça, c'est
Donc voilà
magnifique.
un peu les exemples. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, on a démarré il n'y a pas très longtemps, donc on avait peu de moyens. Moi, j'ai inséré bien sûr mes sponsors personnels dans l'association, ce qui leur permet de défiscaliser, puisque si vous voulez donner ou participer à Play Again, il y a un formulaire de don en ligne hein, sur playagain-asso.fr. On a un site en ligne. Et vous défiscalisez en tant que particulier 60% de la somme que vous donnez. Si vous donnez 10 euros, les 6 euros de réduction d'impôt, ça ne vous coûte que 4. Et 66% si vous êtes une entreprise. Donc, encore mieux.
C'est génial.
Donc voilà, ça c'était la première année, j'ai mis ça en moyen de financement. Et puis là, pour la deuxième année, on a pour objectif d'aider 50 personnes minimum l'année prochaine. Donc
D'accord.
on s'est dit, ben, 50 personnes, 1000 euros environ en coût par personne, ça veut dire qu'il faut qu'on mette quelque chose en place pour lever 50 000 euros environ de dons, ce qui est très compliqué hein, d'obtenir des dons. Moi, le premier, c'est compliqué de donner, on est tellement sollicité. Partout qu'on sait pas où donner, et puis qu'on a tous des problèmes financiers.
Et c'est là où l'urgence de ce podcast rentre en jeu, c'est que jeudi prochain, avec Marina Gauthier, vous organisez une vente aux enchères pour
Voilà,
lever de l'argent.
on organise une grosse vente aux enchères à Drouot. Drouot est partenaire, donc c'est la salle de vente. Donc ce sera en présentiel, mais aussi en
En
live,
ligne.
en ligne sur drouot.com. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour voir les produits. En partenariat avec l'Institut Curie, une partie de la vente sera donnée à la recherche contre le cancer. C'est aussi dans les statuts de l'association. Et du coup, on a réuni une soixantaine de lots. On partait sur une cinquantaine, mais finalement, il y a une soixantaine de lots avec plus de 18 champions du monde ou numéro un mondiaux qui ont participé en offrant des lots. Donc on était parti sur le tennis, bien sûr, un milieu que je connais le mieux. Donc on aura environ 60% de lots tennis. J'ai croisé Gilles Simon, par exemple, qui m'a signé des balles de tennis à l'occasion d'un tournoi. Je crois que c'était au Racing à Paris. Je faisais un TMC avec des jeunes. Et lui accompagnait ses enfants. Donc j'en ai profité, je lui ai signé quelques balles de tennis. Donc ça, c'est un exemple de lot facile d'accès. Mais on a aussi bah, le t-shirt de Rafa, le Wimbledon 2022, le t-shirt blanc, que je peux pas malheureusement vous montrer parce qu'il est dans un cadre.
Une raquette de Novak, je vois, des t-shirts
Ouais.
de Stan, de Zverev, de
Voilà. On
Joe
a
Tsonga.
il y a un tableau de Rafa
Magnifique.
qui a été fait par un peintre. On a une veste de l'équipe de France.
Énorme. C'est qui l'a donné?
C'est une joueuse vétérante qui est 4 fois championne du monde, qui s'appelle Inge Delamar, une homonyme, mais qui n'a rien à voir avec ma famille.
D'accord.
On a des raquettes derrière, ben, il y a Nicolas Mahut, Zabalenka, qui en a d'autres, Donna Vekic.
Comment vous avez fait pour être en contact et récupérer tout ça?
Ben, c'est moi qui me débrouille.
Marina aussi un petit peu, non?
Marina, un petit peu aussi, ouais, Marina, elle se débrouille, elle a quelques contacts dans le milieu du sport. Marina, qui a été l'ancien agent de Gaël Monfils, hein, qui connaît bien le milieu du sport, qui s'occupe de l'événementiel, donc qui m'aide pour l'organisation de l'événement. Mais, ouais, quand même, je pense à 80% de collègues depuis quelques temps, de mon côté. En fait, dès que j'ai
C'est
décidé
beau.
d'ouvrir le projet, que je disais tout à l'heure, je me baladais avec un stylo dans mon sac de tennis et dans tous les tournois ITF, bah, on est dans des environnements où on rencontre pas mal de joueurs. Donc j'ai demandé aux joueurs. Un des derniers que j'ai rencontré, par exemple, c'est Arnaud Deleval. Alors je sais pas si vous vous rappelez, Arnaud Deleval, c'est un. Alors peut-être pas toi, Max, qui es trop jeune, mais les gens de ma génération s'en rappellent. Il avait joué à Roland-Garros, il était à moins 15 à l'époque. Il avait joué Michael Chang, je crois, au premier tour, où a été sparring de Michael Chang. Donc ce gars-là, il m'a mis une belle rouste en tournoi ITF. Je le remercie, tiens, d'ailleurs, s'il regarde. Merci Arnaud. Mais à cette occasion, bah, on est devenus potes. Je disais tout à l'heure que le tennis, c'est une grande famille. Pour moi, c'est d'autant plus important, après ce que j'ai vécu, de faire des belles rencontres et humaines. Et de lier des liens forts avec tous ces joueurs. Donc Arnaud, je lui ai dit, bah, tiens, je vais faire un événement et j'en parle librement à tous ceux que je rencontre. Je vais faire un événement à Drouot, on va vendre des objets aux enchères. On a des beaux sportifs là, qui nous ont aidés. On a un maillot de Mbappé qui a fait des matchs aussi. Ça, je pourrais peut-être te
Et
le montrer
oui,
tout à l'heure
bah
si
alors
c'est sympa.
raconte-moi le
Alors,
la
attends, je finis avec Arnaud. Arnaud Deleval.
ouais.
Après, promis, je vous montre le surprise en exclusivité, puisqu'il n'est pas encore sorti.
Non, mais il y a des lots de dingue dont j'aimerais parler
Arnaud
après. Vas-y, vas-y.
Deleval me dit, je ne sais pas ce que je peux t'offrir, moi j'ai des vieilles raquettes à moi. Je dis, mais Arnaud, t'es pas assez connu, t'as pas quelqu'un, t'as joué des pros, tu dois encore être en contact. Il me dit, non, mais peut-être mon beau-frère. Je lui dis, c'est qui ton beau-frère? Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive, 59 sélections en équipe de France de rugby, 39 fois capitaine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est artiste peintre. Et Jean-Pierre Rive, le lendemain, je me retrouve en WhatsApp avec lui en live et il me dit, oh mon petit poulet, je vais t'offrir un tableau avec un coq à mettre aux enchères, je t'envoie ça.
Sympa, incroyable.
Voilà comment on récupère. Bon, alors après, je vous ai promis un truc. J'avais ça aussi qui est pas mal. La raquette
Raquette
de
de Joe,
Tsonga.
ouais,
La raquette de
dédicacée.
Joe, une vraie raquette de match. Donc, elle est rallongée pour lui, customisée. Ça, c'est Babola qui l'a fourni à EcoSport, le magasin qui est partenaire avec moi, sur le Val-d'Oise, et qui me l'ont offert, gracieusement, sans contrepartie, à mettre en vente. Donc,
T'es beau
un lot
joueur,
sans.
tu mets même en avant la concurrence de Wilson, dis donc. C'est propre.
Ils sont importants sur le marché.
Bien sûr.
Allez, je vous montre une exclue pour les fans du PSG. Je vais essayer de pas le salir.
Comment t'es rentré
Maillot.
en contact du coup avec Kylian?
Alors, Kylian, comment j'ai fait? J'ai la chance
C'est beau.
d'habiter à Pontoise. Voilà, signature de Kylian. Donc, c'est un maillot de match quand même. 2019, Coupe des clubs champions, si je dis pas de bêtises. Qui a marqué 3 buts avec. Il a joué avec, il l'a
Ouais.
dédicacé, il nous l'offre. Donc, comment j'ai eu ce maillot? Ben, j'habite à Pontoise, j'ai la chance d'avoir un gars qui s'appelle Olivier Talaron, qui travaille sur Canal+, qui est le gars qui fait les interviews des joueurs à la fin des matchs, que j'ai croisé. Et je lui dis, tu peux pas m'aider à récupérer un truc et tout? Donc, lui, il m'a aidé à récupérer des maillots et. Pas celui de Mbappé. Et j'ai un deuxième contact qui est un ami d'enfance avec qui je joue au tennis, qui est sur l'île Adam, qui travaille à l'équipe. On va le garder anonyme parce que je sais qu'il n'aime pas forcément trop être cité. Mais c'est le rédacteur en chef du foot à l'équipe. Et lui, il m'a dit, mais moi, j'ai accès à la famille de Kylian Mbappé. On va se débrouiller, on va t'avoir
Trop bien.
un. Donc voilà, je me suis retrouvé à prendre mon petit vélo, aller à Paris et aller récupérer dans l'antre de la famille de Kylian Mbappé un maillot que sa maman en fait nous a donné puisque c'est sa maman qui gère avec une malle énorme tous les maillots de match qu'elle récupère et qu'elle donne aux associations. Donc
Elle est forte, la madre. Et le maillot
voilà.
de Mark Cavendish et la
Alors le maillot de
casquette
Marc Cavendish. Ah
de
ouais, tu as vu ça?
Carataro.
En fait, j'étais en sport-études quand j'étais jeune, en tennis-études tennis.
Ouais.
Et comment dire, mon protagoniste, c'est comme ça le mot, j'étais à 5-6 et j'avais un de mes copains qui était à 15. Et on se battait toujours en tournoi l'un contre l'autre parce que on était en junior, enfin minime cadet junior ensemble. On était souvent en finale ensemble et on gagnait chacun notre tour les uns les autres. Et ce gars-là, maintenant, est directeur général de ASO qui organise le Tour de France. Donc, il m'a gentiment aidé. J'ai sollicité un peu tout mon carnet d'adresses en me récupérant. Il me dit, oh, je peux peut-être avoir un maillot de Cavendish, qui est quand même le coureur cycliste le plus titré du Tour de France. Je lui dis, écoute, si tu arrives à faire ça, c'est top. Bon, voilà. Donc, il est arrivé par la poste avec expéditeur Cavendish, destinataire Play Again.
Énorme.
Donc, grand merci à lui. Et il nous a envoyé une photo, une petite vidéo d'authenticité qui sert à prouver que tout ça, c'est en l'occurrence, que ce maillot, c'est un vrai, que c'est bien lui qui l'a signé, et que c'est un maillot qu'il a porté dans l'équipe Astana, si je ne
Et
dis pas de
tes
bêtises.
potes avec Elise et Moon, parce qu'il y a un pack padel d'1 heure pour 2 personnes en région parisienne pour jouer avec Ellie,
Avec Elise et Moon.
ainsi que
Ouais.
2 raquettes Wilson. C'est beau.
Ah, voilà. Merci, Wilson. Merci Ellie. Alors, grand merci à Ellie ouais, qui est actuellement en fait dans la promotion de Duc Ubu 5, je crois. C'est du Cubu Passover, donc son film sur lequel il est, je crois, producteur et acteur dedans, si je ne dis pas de bêtises. Donc il fait une tournée, ça sort le 4 ou le 5 avril au cinéma. Je l'ai sollicité toujours par l'intermédiaire d'une relation personnelle. Il a gentiment répondu en vidéo qu'il était d'accord pour nous aider, mais qu'il savait pas trop quoi faire. Et puis j'ai regardé un petit peu, et à un moment, il se foutait. Alors, il souriait d'Hanouna en disant, en ayant posté sur son profil une photo où il saute un filet de paddle, en disant, bah, il n'y a pas qu'Hanouna qui joue au paddle, moi aussi. Et donc je lui dis, bah, tiens, ce qu'on va faire, on va offrir, si tu veux bien, une heure de paddle avec toi, et éventuellement moi comme partenaire, s'il n'a pas de partenaire, pour deux personnes en face. À me dire, ouais, ça c'est chouette, c'est une bonne idée, on fait ça en région parisienne, on y va, je t'offre cette expérience de vie, ça s'appelle, dans le cadre de la vente aux enchères, et j'ai sollicité Wilson pour ajouter deux raquettes, parce que bah, les joueurs en face n'ont pas forcément, ou les gens n'auront pas forcément de raquettes. Donc
Incroyable.
cet événement d'une heure sera sponsorisé par Heidi, qui nous a promis d'essayer de venir à la vente aux enchères pour défendre son lot, bah, si son planning de lancement du COBU le lui permet. En tout cas, grand merci de ce geste, cette gentillesse et cette bienveillance sur le
Et
sujet.
Cyril Hanouna, t'as pas réussi à l'avoir?
Alors, Cyril Hanouna, mon rêve serait que ce soit lui qui achète le pack et qu'on fasse un match Julien Maigret, Cyril Hanouna, Elie Semoun et moi. Et donc là,
Yes.
là, ce serait top. Donc, Cyril, si tu nous écoutes, si tu regardes ce podcast, vraiment, je t'invite le 28 à faire une enchère de qualité sur le pack Elie Semoun. On défendra nos chances grandement.
Bah, il y a plein d'autres lots, hein. Franchement, c'est très chouette. Mais il y a un dernier que j'aimerais te questionner, c'est 2 nuits au palace de Gstaad avec petit-déj. Comment t'as
Ouais.
fait pour avoir un truc pareil?
Alors, ben j'ai été en Suisse passer un week-end avec ma femme
Ouais.
pour se reposer. On est passé devant le palace et je me suis dit, mais enfin, je connaissais pas et j'ai découvert qu'il y avait quatre courts de tennis en terre battue magnifiques.
Waouh.
Donc, j'ai un projet de créer un événement pour l'association au niveau de la Suisse. Et peut-être d'utiliser ces cours de tennis. Donc ça, j'ai à peu près une idée toutes les 2 secondes.
Et
Hein.
tu
Donc
nous tiens au courant si ça se produit, on vient.
bon, ça volontiers. Donc je suis rentré dans le palace et j'ai demandé à la conciergerie, bah, est-ce que le propriétaire est là? Et là ils m'ont dit, mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bah voilà, j'ai une association, j'ai expliqué mon truc. Il s'avère que le gars était un Français à la conciergerie, a été touché par ce que je lui ai dit. Faut savoir qu'aujourd'hui quand même, les statistiques, c'est que 3 personnes sur 4 sont touchées par le cancer dans le monde ou ont un proche, un très proche, touché par le cancer. Donc, il y a une forte sensibilisation, ce que j'ai découvert à cette cause. Donc, le gars me dit, non, il n'est pas là, mais par contre, il y a le directeur commercial qui est en bas dans les bureaux. Si vous voulez, je lui l'appelle en lui disant que vous vouliez prendre 5 minutes avec lui pour lui présenter quelque chose. Et donc là, le gars monte. Bon, ça va, j'étais habillé correctement, costard cravate, en anglais, on discute, on prend un Perrier tous les deux. Alors, je dis, mince, j'ai amené une bière quand même, mais bon, c'est pas grave. On prend un Perrier tous les deux. Et il me dit, mais moi, ça me touche ce que vous me dites. Alors, on n'a pas pour habitude d'aider des associations en dehors de la Suisse. Donc, première information importante pour moi. Mais par contre, on va vous aider. Envoyez-moi un mail, voilà ma carte, m'expliquant votre projet, la vente aux enchères, et on essaiera de trouver quelque chose, un objet, une paire de skis, quelque chose à donner, parce que Stade, c'est à la montagne, hein, c'est plutôt un environnement de ski l'hiver, mais ils ont un environnement d'été aujourd'hui, au vu du changement climatique, où ils sont en train de beaucoup travailler les sports d'été. Donc finalement, ils nous ont offert 2 nuits d'hôtel, sachant que dans le palace, 2 nuits d'hôtel, c'est environ 1 000 euros, donc c'est un très très gros cadeau
Cadeau.
pour l'association. On espère, bien sûr, qu'on va dépasser, qu'il va y avoir des donateurs au-delà de la valeur des objets. Mais dans tous les cas, celui qui achètera ça se fera plaisir. C'est un environnement magnifique.
C'est génial. Ah là,
Et
mais
la
t'es
suite.
vraiment un exemple de oser quoi. Oser créer sa chance. C'est magnifique.
Qu'est-ce qui peut se passer au pire? C'est qu'ils me disent, bon, non, je ne peux pas t'aider. Voilà. Donc, moi, je
Ouais,
pars sur
ouais.
ce principe-là. Après, il faut le faire de façon simple, bienveillante, pas agressive. Mais je te disais, la première réponse a été, on n'aide pas les associations en dehors de la Suisse. Or, Play Again, aujourd'hui, n'existe qu'en France. Et là, un autre projet vient de se créer. C'est créer une fondation, en fait, en Suisse. Donc, c'est en cours de création pour pouvoir organiser l'événement là-bas et surtout solliciter des donateurs. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la défiscalisation sur Play Again, qui est une association de loi 1901, hein, donc de bénévoles. Vous avez tous, vous pouvez défiscaliser en faisant un don si vous êtes français. Par contre, les Suisses, s'ils font un don, ne défiscalisent pas. Les Canadiens, s'ils font un don, ne défiscalisent pas. Tous les pays, c'est lié à la législation locale. Donc voilà,
Yes.
le projet, je pense que l'association va se développer, que la vente aux enchères de Drouot va être un moyen aussi financier pour développer l'association, et qu'on va ouvrir dans les pays aujourd'hui qui sont potentiellement intéressés pour aider cette cause et sur lesquels on a des appuis. Donc l'Espagne, la Suisse, le Canada, j'ai rencontré des joueurs canadiens, on a la Turquie, je parlais tout à l'heure que j'avais joué le numéro un turc au tennis, voilà, qui est en appui. Et puis, pourquoi s'arrêter là? Voilà, il n'y a pas de
Alors,
raison. Il faut juste que j'apprenne à comment gérer les choses et puis comment ça fonctionne.
pour terminer, j'aimerais que tu nous dises comment tu as fait, même si tu nous disais tout à l'heure, j'ai cru comprendre dans les grandes lignes, je ne sais pas comment j'ai fait pour continuer de jouer au tennis, je sentais que j'en avais besoin. Comment tu as trouvé l'énergie? Mon but, ça serait d'inspirer des gens qui nous écoutent, qui sont passés par l'état dans lequel tu étais. Comment tu as fait? Quelles sont les études qui montrent que le sport
Alors,
améliore de tant de pourcents les chances de ne pas retomber, de ne pas rechuter?
c'est démontré en termes.
Si tu peux inspirer des gens qui nous écoutent ou des proches de gens qui nous écoutent
Bien
de
sûr.
pas lâcher, de s'accrocher, de faire du sport, ou alors faire quelque chose qui mentalement te fait du bien. Voilà, si tu peux nous faire un résumé de cette période-là,
Ouais,
quoi.
aucun problème. Alors, en fait, de l'endorphine. Quand on fait du sport, quand on a du contact humain, on fait de l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone positive dans le cerveau.
Ouais.
Donc, la base d'un combat contre une maladie, hein, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit Parkinson, que ce soit tout un tas de maladies, c'est la volonté et le bien-être, on va dire. Donc, bien entendu, si vous connaissez des proches qui sont malades, moi, je vous invite à aller les voir, à les supporter, à leur proposer, même s'ils sont fatigués, de les accompagner peut-être le long dans leur rue, sur leur trottoir, 100 mètres, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, mais ne les laissez pas dans l'isolement. Voilà, l'isolement, c'est une des pires des choses que j'ai ressenties quand on est malade, parce qu'on change d'état physique, on fait peur aux gens, l'issue est compliquée souvent en projection. Donc, il y a un côté, je me protège, je coupe les ponts avec cette personne malade. Donc ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le tennis et l'environnement du tennis qui m'a soutenu. C'est pas facile. Je prenais souvent 6-0, 6-0 sur les ITF. On parle pas des ITF vétérans, là, j'entends. Je m'appuyais sur la raquette. Je prévenais mon adversaire que j'étais malade ou faible. Je me rappelle d'un match où, à la fin du match, le gars a pas voulu me serrer la main. Et je me suis approché du filet, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y avait au moins 200 personnes qui regardaient. Il a parlé en espagnol, donc je comprenais un petit peu l'espagnol. Il a demandé aux gens de m'applaudir par rapport à la démarche que j'avais avant de me serrer la main.
Ah ouais,
Donc,
magnifique. Putain, c'est
voilà, ce
chouette.
gars-là, il s'appelle Wilfrido. C'est un ami pour la vie maintenant.
Waouh.
Voilà. Donc, le sport va aider. Tu me parlais de statistiques. Aujourd'hui, les médecins disent que le sport aide 30% des malades à être guéris ou à passer en guérison dans les statistiques par rapport aux gens qui sont inactifs. Donc après, quand on parle de sport, c'est l'activité physique, c'est ce qui est préconisé par tous les médecins. C'est un minimum d'une demi-heure, 1 heure par jour d'activité. Ça peut être de la marche, ça peut être, c'est ne pas rester statique. Voilà. Donc ça, c'est certain que ça aide moralement et physiquement. J'expliquais tout à l'heure, ça aide aussi à encaisser le traitement. Sans activités sportives sous un traitement fort, on fond physiquement, donc on fond forcément plus vite sans activité que si on maintient les muscles actifs ou si on en gagne un petit peu. Il faut rajouter à ça tout ce qui est régime protéiné, micronutrition. Enfin, c'est un tout complexe, hein, et il faut se faire encadrer par un médecin du sport et des diététiciens et des médecins pour le faire. ne faites pas de choix personnel, faites-vous conseiller. Et puis après la maladie, le sport permet de gérer les choses et de se reconstruire. Donc moi, mon exemple personnel, ben, j'avais perdu 20 kilos, et en cas de chimio, on perd forcément du poids. Donc pour retrouver son état de forme normal, ben, il faut avoir à nouveau une activité physique adaptée. Adaptée au point où on est rendu, et adaptée en reconstruction, parce que il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a des tendinites, il y a plein de choses. Donc il faut adapter la préparation physique à la situation. On a l'exemple d'un diabétique, par exemple, qu'on aide, qui fait de la régulation de son diabète. Le diabète, c'est des injections, se traite par des injections d'insuline quotidienne. Bah, il arrive à réduire son nombre d'injections par la marche à pied. Donc c'est quelqu'un, par
Ah,
exemple,
c'est
qui fait même des
génial ça.
marathons. Il fait des marathons, et du coup, il fait une autorégulation de son taux de sucre par le sport. Donc
Ah, c'est
encore un
merveilleux.
exemple où le sport régule le problème physique. Voilà. Bon, puis après, vous connaissez, je pense, pour la plupart, Anthony qui
Zverev.
fait un parquet. Oui, bah, Zverev, bien entendu. Mais Anthony Desjardins qui fait un parquet chez les pros, qui fait aussi du ralentissement du développement de sa maladie de Parkinson par l'activité physique et le sport. Voilà. Tout ça, c'est des gens que j'ai rencontrés et qui sont des preuves vivantes bah, que le sport apporte quelque chose. Si moi j'en suis une, tant mieux déjà pour moi, dans cette seconde vie, bien entendu. Et si ça peut inspirer les autres, bah, je l'espère. Et vous êtes tous les bienvenus pour soutenir à la fois Play Again et pour en profiter si vous en avez besoin. Parce qu'on est là pour récolter, bien entendu, mais pour redistribuer aussi. 1 euro récolté, c'est 1 euro redistribué. C'est le principe qu'on a pris. On est tous bénévoles, on n'a pas de frais. C'est hébergé à mon domicile. Même la banque est partenaire, qui nous prend des frais bancaires, est partenaire de l'association et nous donne plus qu'elle nous prend.
Génial. Est-ce que tu peux nous confier un moment où mentalement c'était vraiment dur? Et peut-être, j'en sais rien, tu t'es parlé ou tu t'es raccroché à quelque chose, à tes enfants, tes petits-enfants ou ta famille. Je me souviens d'un ami qui m'avait dit un jour, ou non, pas un jour, c'était tous les matins, je me parlais dans le miroir et je combattais ma maladie, pareil, un cancer, seul, tu vois, enfin seul. Ça partait de là, en fait, déjà.
Ouais,
Et évidemment,
c'est
tu es entouré, mais est-ce qu'il y a un moment ou une routine ou un truc qui peut aider concrètement les gens qui peuvent nous écouter ou les proches, tu vois, de toi, de ton vécu, de ton expérience.
Oui, alors moi j'ai toujours des objectifs dans la vie. On parle le tennis a été le moteur de tous ces enchaînements en fait. Pour jouer au tennis, il faut avoir un niveau. Quand tu rencontres quelqu'un, le mieux c'est d'être proche du niveau de ton adversaire ou de ton partenaire. Or la maladie t'emmène bas. Donc je me suis donné à chaque fois des challenges en me donnant des objectifs. Des objectifs qui étaient compliqués à atteindre. Jouer sous chimio, numéroté, même si tu as un bon background, une bonne technique, il faut se pousser un petit peu en préparation. Ça veut dire tous les jours se faire mal, gérer les tendinites, gérer les à côté dus à la chimio, les hauts, les bas, gérer la récupération, le sommeil. Donc ça veut dire s'imposer des siestes journalières. Alors ok, ça fait rire, ça. Hein, le vieux là, il fait de la sieste, mais non, ça n'a rien à
Pas du
voir.
tout, pas du tout. La sieste, mais même je lis les entrepreneurs qui en font de plus en plus. C'est hyper bon
Voilà, sportifs de haut niveau,
entre 5 et 30 minutes.
tous ceux que j'ai rencontrés, les sportifs de haut niveau font des siestes. Il faut savoir que les Nadal et autres, quand ils font 4 heures d'entraînement d'affilée, ils ont cette capacité-là, mais derrière, ils vont dormir, comme tu disais, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure en récup. Alors, soit avec un kiné, si on est dans le meilleur environnement du monde, ou un physio qui va s'occuper de toi, mais qui permet de te relâcher, de somnoler un petit peu. Donc, c'est une récupération. Mais oui, il y a les objectifs et les challenges que je me suis donné ont été le moteur à chaque fois. Voilà. Ça a été compliqué. Après, un des autres moteurs, bah, c'est bien sûr la famille proche et les amis. Donc, dans les amis, quand tu vis un accident de vie comme ça, bah, certains disparaissent parce qu'ils ont peur et d'autres se révèlent. J'ai des gens qui étaient des amis de deuxième niveau. On peut pas donner de niveau dans les amis, mais des proches plutôt que des amis qui sont devenus des amis. parce qu'ils m'ont tendu la main, ils sont venus me voir avec, je me rappelle d'un qui est venu me voir avec une voiture de sport en me disant, bah, tiens, viens, on va faire un tour en voiture.
Sympa.
Une voiture anglaise, ouais, sympa, mais sauf que quand tu as perdu 15 kilos, que tu n'as plus de muscles, que tu n'as plus de volume et que ça tape bien fort, mais c'est un souvenir extraordinaire, même si c'était compliqué physiquement, sortir, respirer, et que le mec te tende la main, voilà, ça, c'est des souvenirs forts. Donc après, tous les jours, on se raccroche à ce qu'on peut. Moi, j'avais la chance d'avoir trois enfants et d'avoir deux petits-enfants à cette époque-là, d'être deux fois grand-père et de savoir que mon fils voulait avoir un autre enfant. Un de mes rêves était d'avoir un petit garçon, un petit enfant. Il avait eu deux filles en premier. Donc, c'est aussi, tu te raccroches à des choses comme ça. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui passe par la tête pour penser à ça et combattre la maladie? Voilà. Après, moi, je dirais en conclusion, si tu veux, c'est que le cancer, c'est pas ça qui a été compliqué, c'est le traitement. Voilà. J'ai pas souffert du cancer, j'ai souffert du traitement.
Ah ouais.
Et aujourd'hui, dans ma deuxième vie, voilà, ce qui a été le plus dur, c'est encaisser le traitement. Donc voilà, je vous invite tous à aider les gens autour de vous qui sont touchés ou qui sont sous traitement, à leur proposer de sortir, à leur tendre la main, voilà, simplement. Et puis, à les aider à avoir une activité minimum.
Wow. Bravo. Quel beau combat et quelle initiative incroyable et pour rebondir sur les objectifs que tu te fixais, je pense que tu en avais un aussi, c'était regagner des...
Regagner, ouais, mais c'est
Attends,
compliqué.
mais regagner des rallyes de fond de cours. Tu nous as dit que tu étais un contreur. Je pense que tu te visualisais faire des glissades sur terre à Beaulieu là-bas et te dire, putain, je vais y revenir. Je veux les croquer, les mecs.
Ben, c'est un peu le cas, c'est que j'ai reconstruit un jeu un peu plus défensif
Ah ouais?
et c'est marrant ce que tu dis parce que c'est effectivement le cas. Pour me préserver, donc et là, j'ai quand même avancé, j'ai pris 5 ans. Je suis à un âge où les chocs, j'ai la chance d'avoir jamais été blessé. Si on peut dire que le cancer n'est pas une blessure, mais j'ai jamais été blessé dans ma vie de sportif. Mais la terre préserve quand même grandement par rapport au dur. Moi, j'ai plus un jeu de dur, naturellement. Mais me retrouvant sur terre contre des Espagnols qui rament, qui renvoient 10 fois la balle, où je gagne 4 fois le point dans l'échange, effectivement, voilà, c'est l'objectif, c'est de regagner des matchs. Parce que être sur le court, c'est tellement kiffant maintenant que je profite du moment et j'oublie cet objectif de gagner. Sauf que j'ai envie de rejouer. Et on sait très bien qu'au tennis, pour se faire plaisir, bah, il faut gagner parce qu'on rejoue que si on gagne. Voilà. Donc ça commence à venir. J'ai mis 2 bulles l'autre fois,
Bravo.
un jeu de 6, là, j'avais envie de gagner, je crois.
Était 5-6, donc mine de rien, t'es là. Magnifique. Merci beaucoup, Guillaume. Je me suis régalé. On se connaissait pas il y a encore 1 heure et demie et j'ai voyagé grâce à toi. Tu m'as donné, je sais pas, tu transmets de la force par ton discours et j'espère que ça va inspirer un paquet de monde. Je mets
Merci.
évidemment tous les liens de la vente aux enchères, l'heure, les détails en description de l'épisode. Allez-y nombreux, envoyez à des potes à vous. Faites circuler l'info, c'est hyper important. Et au plaisir de se voir, de se rencontrer à l'occasion, Guillaume.
Avec plaisir. Je rajouterai juste en conclusion, si vous allez sur Google, vous tapez Play Again Assaut, vous trouvez toutes les infos de l'assaut. Et si vous tapez Play Again Draw, vous trouvez la vente aux enchères facilement. Normalement, elle est bien référencée. Merci à Marina pour le travail de référencement et de création. Merci
Yes.
Max pour
Merci.
ta présence et cette interview. Avec plaisir
Génial.
de te revoir peut-être sur le cours.
Et avec grand plaisir, on se fait un super taille ou un set à l'occasion parce qu'on est le même
T'inviterai, on va
classement.
faire un
Donc,
événement tennis. On va faire un événement tennis, je t'inviterai
ah, j'espère.
pour te mettre une branlée.
Yes. Allez, la bise, Guillaume, à
À
bientôt.
bientôt.
Ciao, ciao.
Merci à
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Guillaume qui a donc créé l'association Play Again. Pour rappel, la vente débutera à 19h à l'hôtel Drouot. Jeudi 28, où elle sera aussi retransmise en direct sur drouot.com. L'objectif de cette vente solidaire est de permettre à 50 personnes minimum de se remettre au sport grâce au soutien financier et à l'aide apportée par Play Again. Les dons seront affectés à des projets de vie ainsi qu'à l'Institut Marie Curie, partenaire de recherche de l'association, dans le cadre de l'amélioration des traitements et de la qualité de vie des malades du cancer notamment. L'ensemble des lots a été collecté par l'association, qui a sollicité donc son réseau, vous l'avez compris, ainsi que les nombreuses portes poussées par Guillaume, un mot sur Play Again, qui est une association d'intérêt général. Loi 1901, but non lucratif, est validée par le ministère de l'Intérieur. Elle a été fondée en 2022 par Guillaume, en partant du constat que le sport permet de mieux lutter contre la maladie, aussi bien physiquement que moralement. L'association a deux missions. D'une part, soutenir et aider financièrement des personnes à pratiquer des activités physiques pour contribuer à leur santé et à leur bien-être. Le mode de fonctionnement est simple. Chaque projet est étudié puis validé par des professionnels de la santé. L'association prend ensuite en charge tout ou partie des frais liés à la pratique d'une activité physique ou sportive préconisée par les médecins, tels que des abonnements à la salle de sport, des coachings, des équipements sportifs, des licences, des cotises ou encore des séances de relaxation. D'autre part, Play Again communique sur les bienfaits du sport en donnant la parole à des scientifiques et professionnels de la santé lors d'interventions organisées ou en mettant en place des parrainages sport-santé. L'association aide également à la recherche. Voilà, vous avez toutes les infos. Je mets tout en lien et en commentaire. Par avance, merci vraiment d'envoyer l'épisode à des amis à vous qui pourraient être sensibles à cette cause et faire rayonner le message. Si toutefois vous ne faites pas l'acquisition du maillot officiel de Mark Cavendish, vous pouvez toujours faire un petit geste, un petit don qui fera une bonne action. Et en plus, c'est défiscalisé, donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Voilà, n'hésitez pas. Un grand merci, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.